Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale donne la parole à Narges Saïdan, la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie. Narges Saïdan qui, fin décembre, a quitté ses fonctions en dressant au micro d'ONU Info le bilan de ses 2 années et demie passées au bureau de l'OIF à New York, alors même que la francophonie s'apprête en 2020 à fêter ses 50 ans.
La francophonie auprès des Nations Unies a toujours été engagée. Hein. Ça fait plus de 15 ans que la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie a développé un partenariat avec les Nations Unies, avec diverses parties de la maison des Nations Unies, je dirais, non, tant avec le secrétariat qu'avec les agences et organisations de développement. Un historique long et surtout des États membres particulièrement actifs à travers le groupe des ambassadeurs francophones pour rappeler. L'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui, c'est 80 des États membres des Nations Unies, donc un peu plus de 40% des membres de l'Organisation des Nations Unies sont également des membres de la francophonie. Et donc ça donne un potentiel d'action, de plaidoyer, mais aussi de véritable contribution pour la construction de la paix, du développement, une contribution francophone spécifique qui donne des alternatives à la fois à nos États membres sur le terrain, mais aussi à tous les dialogues et tous les engagements au niveau mondial sur les valeurs, les droits et les valeurs essentielles que porte la francophonie depuis toujours.
Alors, on rappelle l'acte fondateur de la francophonie, c'était il y a 50 ans. C'est une organisation qui a énormément évolué et qui s'est notamment féminisée. Vous avez été ainsi la première représentante permanente de l'organisation auprès donc, des Nations Unies. Est-ce que ça a été un tournant qui était voulu ou est-ce que ça a été un pur hasard en termes de nomination ?
Non, le tournant a été voulu. C'est un engagement très fort des États membres qui d'ailleurs s'est concrétisé à nouveau à Erevan au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement en octobre 2018 où les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie justement ont adopté la stratégie égalité femmes-hommes. Donc il y a une véritable volonté au plus haut niveau de l'organisation d'engager l'organisation et d'accompagner les États membres de cette organisation dans leur volonté d'un monde plus égalitaire, hein, mais qui s'intéresse aussi à toutes les problématiques plus complexes, notamment dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, des questions à la fois de protection, de promotion des droits des femmes, dans le cadre aussi d'un engagement sur les droits de l'homme plus global. Donc véritablement un engagement fort de l'organisation porté par ses États membres et mandaté par ses États membres sur ces questions-là.
En termes de leadership, pour parler en bon français, de la francophonie, vous avez travaillé avec 2 secrétaires générales, donc 2 femmes. Je pense donc à Michael Jean et à Louise Mouchy-Kiwabo. Là aussi, c'était une première, je veux dire, la nomination de Michael Jean. Et lorsque vous-même vous êtes arrivé, vous étiez dans un contexte où il y avait un rééquilibrage du rôle des femmes au sein de l'organisation. Est-ce que là également, c'est en termes de droits humains, de droits de l'homme, pour reprendre les différentes appellations, quelque chose qui a été accéléré? Est-ce que le rôle d'une organisation ou d'un club linguistique, comme parfois certains voyaient de façon réductrice bien sûr l'organisation, est-ce que ce rôle sur les droits humains aussi a été accéléré à ce moment-là ?
C'est beaucoup plus qu'un club linguistique. Hein. L'OIF aujourd'hui, c'est quand même 88 États et gouvernements membres qui, au-delà de la langue, ont toujours porté des valeurs très fortes sur les droits de l'homme. Et évidemment, l'organisation évolue dans un contexte mondial qui est peut-être effectivement un contexte d'accélération, en tout cas sur les questions d'égalité femmes-hommes, certainement. Certainement aussi sur les droits de l'homme en général, sachant que le contexte général aujourd'hui est plutôt à contre-courant, si je dire, ou en recul par rapport à certains des acquis que tous croyaient acquis et qui aujourd'hui sont quand même dans certains contextes remis en question et donc nécessitent d'autant plus d'engagement d'organisation comme l'OIF qui ont toujours été engagés d'abord et avant tout par le lien qui unit l'ensemble de ces États membres et de ces gouvernements membres justement autour de ces valeurs fondamentales liées aux droits de l'homme. Donc accélération oui, sans doute le contexte du cinquantenaire comme vous l'avez mentionné, hein, c'est une organisation qui va avoir 50 ans l'an prochain, 50 ans qui offre une véritable opportunité non pas de se réinventer complètement mais certainement de réajuster ou ajuster certaines de ses manières d'opérer, de ses partenariats aussi, de manière plus stratégique et plus engagés, notamment avec les Nations Unies. Donc certainement là aussi, de belles opportunités d'accélération et tout à fait dans la lignée de l'ensemble des organisations internationales aujourd'hui qui ont pour mandat de protéger, promouvoir les droits de l'homme pour l'ensemble de nous les peuples.
En 2 ans et demi, on l'a dit, vous avez eu un agenda très fourni. On sait aussi que le calendrier international est jalonné de dates, d'anniversaires. On parlait des 50 ans donc, que l'on va célébrer. Il y a eu également les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme que vous avez célébré ici. Vous avez organisé une série d'événements. Là aussi, ça faisait partie de tout cet engagement, de toute cette détermination à défendre ces éléments et ces mandats essentiels.
Absolument. Et là-dessus, je pense que l'Organisation internationale de la francophonie a certaines spécificités qui lui donnent encore plus de valeur dans son engagement, je dirais, notamment sur les droits de l'homme et notamment à l'occasion de la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons pu nous fonder sur les réseaux de Commission nationale des droits de l'homme, mais également sur les partenariats que nous entretenons avec différentes organisations de droits de l'homme et particulièrement avec les organisations de la société civile. Nous avons des réseaux d'organisations non gouvernementales de la société civile dans l'ensemble de l'espace francophone qui, je le rappelle, se situe et a des pieds dans les 5 continents. Donc c'est véritablement un potentiel d'échange de pratiques, d'échange de pensées, d'actions qui est véritablement, je pense, assez unique à la francophonie et qui n'appelle qu'à se déployer et développer encore plus avant dans les années à venir.
On parlait donc des femmes, des droits humains, des droits des femmes et du rôle accru qu'a joué l'organisation, et notamment avec vous comme représentante ici. Il y a eu notamment, on pense à ce Conseil de sécurité où pour la première fois, il y a eu une secrétaire générale de la francophonie qui était présente. C'est notamment par rapport à la fameuse résolution 1325 et donc à la protection des femmes dans le cadre des conflits. Là également, est-ce que la francophonie a réussi à faire entendre sa voix ?
Elle a réussi à faire entendre sa voix, certes. Elle le fera sans doute encore plus fortement à l'avenir, dans la mesure où les 50 ans de l'organisation correspondent également avec le 20e anniversaire. Anniversaire est sans doute un mot peu approprié dans ce cas-là de la résolution 1325 en 2020 également, avec en plus, depuis le 25 septembre 2019 très exactement, une plateforme francophone pour le Conseil de sécurité, dans la mesure où en 2020 nous aurons près de 50% des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appartiennent également à l'Organisation internationale de la francophonie et que donc à l'occasion du cinquantenaire et du 20e anniversaire de la résolution 1325, nous avons bien l'intention de faire entendre une voix francophone et une véritable contribution francophone pour une mise en œuvre accélérée de la 1325 sur le terrain, puisque c'est ceci qui est aujourd'hui en objet, non, c'est véritablement d'avancer sur la mise en œuvre alors que l'ensemble des cadres normatifs sont déjà disponibles.
C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des herbes.
Plusieurs ambassadeurs de la francophonie notamment ont mis l'accent sur le problème des opérations de maintien de la paix, notamment déployées dans des pays francophones, où parfois, hélas, on a un problème de recrutement de francophones. C'est une véritable crise, parfois même, pour pouvoir fonctionner, pour être opérationnel. Est-ce que là, il y a des éléments de travail ? Est-ce qu'il y a des progrès qu'on a pu apercevoir après ce genre de position ?
Alors, des progrès, absolument. Ça fait déjà donc 15 ans que l'OIF est très active pour justement renforcer la participation francophone au sein des opérations de maintien de la paix. Pour rappel, près de 50% des opérations de paix des Nations Unies se trouvent opérées en terrain francophone, d'où l'importance d'avoir du personnel francophone en uniforme ou en civil qui puisse effectivement servir au sein de ces opérations. On est un peu plus avancé aujourd'hui sur le volet police, un peu moins avancé toujours sur les volets civils et en uniforme, mais on continue à œuvrer dans ce cadre et ça fait partie des priorités absolues de l'organisation dans les années à venir, de renforcer l'enseignement du français, la sensibilisation à l'interculturel au sein de ces opérations de paix et certainement de systématiser le partenariat avec les Nations Unies de manière à ce que les francophones puissent être suffisamment représentés pour servir la performance de ces opérations sur le terrain, puisque c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc, encore beaucoup beaucoup de progrès à faire, mais des progrès déjà notables et une action qui va se poursuivre dans les années à venir pour permettre justement toujours une plus grande performance de ces opérations sur le terrain au service des populations.
Alors, vous l'avez dit, le Conseil de sécurité, de par la représentation, va avoir donc en gros la moitié de représentants francophones. Est-ce qu'ils se sont engagés à parler relativement régulièrement, voire systématiquement, dans la langue de Molière, de Senghor et de bien d'autres ?
Alors effectivement, nos États membres sont tous engagés à parler et à utiliser la langue française effectivement dans toutes les enceintes internationales. Ce plaidoyer va certainement continuer. Nous venons de contribuer également à l'impression du manuel de procédure du Conseil de sécurité qui, dans sa version française, n'était disponible que virtuellement, non, sur Internet. Donc nous en avons imprimé un certain nombre de copies pour surtout pour les personnels des capitales qui ont besoin d'avoir accès de manière assez facile à cette documentation. Donc la langue va certainement être un élément. L'autre élément, bien entendu, est celui d'une convergence réelle sur certaines problématiques de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, qui sont également des États francophones membres de l'OIF, dans le cadre des discussions qui se feront au Conseil, sachant que la plateforme a également vocation à s'intéresser de plus près à ces États qui sont à l'agenda du Conseil et dont une grande partie sont également des pays francophones, pour faire fonctionner cette solidarité francophone et faire en sorte que l'engagement puisse servir à de vrais résultats et à de vrais impacts sur le terrain.
Alors, on est dans un environnement ici, donc à l'ONU, qui est particulièrement donc riche en termes de langues. Donc, il y a deux langues officielles qui sont deux langues de travail, l'anglais et le français et l'anglais. Puis, il y a quatre autres donc langues qui sont langues officielles. Est-ce que ça veut dire aussi que la francophonie a suivi le mouvement et l'évolution qu'on a connue depuis 20-25 ans sur ce passage du plurilinguisme au multilinguisme et faire avec les autres langues, je pense à l'espagnol, au russe, au chinois et à d'autres, et à la langue arabe par exemple, front commun pour essayer de défendre les valeurs que véhicule la langue par rapport à l'omniprésence ou l'omnipotence de l'anglais, par exemple ?
Alors effectivement, ça reste un terrain d'action particulièrement important. La négociation de la dernière résolution sur le multilinguisme qui a été adoptée par l'Assemblée générale a fait vraiment l'objet d'abord d'un engagement très fort des États francophones, mais également d'alliances avec les autres groupes linguistiques qui effectivement ont à faire les mêmes contributions, on va dire non, à cette problématique. La francophonie, il s'agit d'une langue certes, mais certainement aussi d'une vision du monde, de solutions alternatives qu'il faut porter, parce qu'elle représente l'ensemble de la réalité du monde d'aujourd'hui et que le monolinguisme correspond de fait à une pensée unique et que c'est aussi pour ça que la francophonie est engagée sur le terrain du multilinguisme qui nous semble, comme le secrétaire général des Nations Unies lui-même l'a mentionné et le porte en premier chef, c'est que c'est véritablement une question aujourd'hui fondamentale à la légitimité et à la capacité d'agir de la scène multilatérale et particulièrement de la scène onusienne où l'ensemble de ces États se retrouvent pour réfléchir ensemble et trouver les solutions ensemble pour plus de paix, plus de sécurité et plus de développement dans le monde. Donc pour la francophonie, encore une fois, au-delà de la langue, c'est véritablement le multilinguisme comme un outil d'élargissement de l'éventail des options et des solutions pour notre monde sur toute une série de thématiques. Et Dieu sait si les thématiques traitées aux Nations Unies à New York sont un éventail particulièrement large. Donc c'est vraiment dans cette perspective que la question de la langue se pose, parce qu'elle véhicule une manière de penser et de s'engager avec l'autre et de s'engager avec le monde qui correspond aux valeurs que défend la francophonie, du vivre ensemble et du respect mutuel. Donc c'est à ce titre que c'est fondamental.
Voilà, fin de ce podcast avec Narges Saïdan, l'ancienne représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie à New York. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Un podcast d'ONU Info à retrouver avec nos journaux quotidiens, vidéos et articles sur Internet et sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.